Donc, nous continuons notre étude dans la famille selon Dieu. Nous avions vu les six leçons, c'est-à-dire l'origine de la famille, donc l'unité du couple, le rôle des époux, l'ambiance familiale, l'éducation des enfants, l'instruction chrétienne des enfants, et puis la correction le dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous verrons ensemble le service dans l'Église. Mais le service dans l'Église en tant que Église famille de Dieu. Et pour rappeler la leçon dernière, nous avions parlé de la correction des enfants. Et le premier point que nous faisons ressortir ici, c'est que le caractère de tout enfant a besoin d'être corrigé, car tout enfant naît avec une nature pécheresse. Donc, toute personne, quand on naît, il y a la nature pécheresse qui est en nous. Donc, par rapport à cela, ça prend de corriger, de rectifier, de modifier le caractère de l'enfant selon ce que Dieu veut. Deuxièmement, à la base, ce qui doit être corrigé est la rébellion pour rendre l'enfant obéissant. Tandis que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc, par la verge, on peut corriger cela. Donc, à la base, c'est la rébellion donc qu'on corrige pour rendre l'enfant obéissant. Le troisième point, c'est que obéir est fondamental au principe d'honorer ses parents. Et on a dit effectivement que cela découle déjà de notre relation même avec Dieu. Voilà, donc, obéir est fondamental à ce principe-là, d'honorer ses parents. La correction des enfants doit se faire avec amour. C'est vrai que la correction est autorisée. On doit corriger les enfants, mais on doit le faire avec amour. Pas pour assouvir peut-être notre colère, pas pour humilier l'enfant, pas pour que nous-mêmes on soit heureux ou à l'aise parce qu'on a fini de frapper l'enfant, on se sent fort, mais la correction de l'enfant doit se faire avec amour. C'est-à-dire c'est dans l'amour qu'on corrige un enfant. Et lorsque la correction est corporelle, elle doit être raisonnable et limitée. C'est-à-dire la correction, ce n'est pas seulement prendre un bâton et puis frapper l'enfant. On a discuté de beaucoup de possibilités que nous avions la dernière fois pour pouvoir corriger effectivement l'enfant. Mais lorsque la correction devient corporelle, on doit être raisonnable et puis cela doit être limité. Et le dernier point que j'ai noté, c'est que la correction ne doit pas compromettre la santé, le développement et la sécurité de l'enfant. C'est-à-dire on ne va pas corriger dans l'optique de blesser, de faire mal. Mais quand on corrige, c'est dans l'optique que l'enfant puisse corriger son attitude, corriger son comportement, mais on ne corrige pas dans l'optique de blesser. Donc, on parle de santé, mais de développement aussi, il y a le développement psychologique. Des fois, il y a des marques qu'on peut faire, des corrections qu'on peut apporter, et puis l'enfant peut être de façon psychologique, porter les séquelles, c'est-à-dire les séquelles, là, elles sont plus physiques, corporelles, mais elles sont psychologiques, l'enfant a ça en lui. Donc, ça ne doit pas être l'objet de notre correction. On doit faire attention à cela. Et puis, la sécurité de l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant, quand il est avec nous, il se sent pas en sécurité. Parce qu'il se sent toujours menacé par la correction qu'on veut apporter. Or, on a vu dans les études précédentes que la famille doit être un havre de paix. C'est-à-dire un havre de paix. On doit être paisible. L'enfant doit être content de vouloir rentrer à la maison. Hein? Donc, c'est un peu ça qu'on a vu, ou les points que j'ai pu recenser dans l'étude qu'on a pu faire donc, le dimanche dernier. Je ne sais pas si vous avez une ou deux personnes voudraient ajouter des éléments là-dessus que je n'ai pas notés. C'est correct, ça vous va? Donc, aujourd'hui, nous allons voir le service dans l'Église. Si on prend au pif comme ça, le service, c'est quoi? Si on parle du service dans l'Église, selon vous, c'est quoi le service dans l'Église? Donc, le service dans l'Église, c'est être utile dans son Église. Le service dans l'Église, c'est le bon fonctionnement de l'Église, faire en sorte que l'Église puisse fonctionner normalement. Oui, maman Hélène, son aide. Donc, le service de l'Église, c'est exercer dans les ministères qui existent déjà dans l'Église, pour pouvoir contribuer à apporter son aide au niveau de l'Église. Donc, tout est bon pour nous. En charge. Donc, le service dans l'Église, c'est intervenir afin de faire en sorte que les personnes qui sont en charge aient des tâches aussi qui sont allégées. Pour vaquer à autre chose. Cela, quand il dit cela, cela me rappelle un peu non seulement Moïse, mais plutôt dans Actes des Apôtres, le choix des diacres. Parce qu'arrivé un moment, c'est les apôtres même qui distribuaient, mais arrivé à un moment, ils se disent, mais tiens, on ne peut pas passer notre temps à distribuer et puis laisser de côté la parole. Donc, trouvez-nous cette personne ou un de l'Esprit de Dieu qui vont se charger de la distribution, donc du service, pendant que nous, on se charge de proclamer la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est exact. Donc, l'Église est décrite dans la parole de Dieu comme une famille spirituelle dans laquelle chacun a une place, une valeur, un rôle pour exprimer l'amour du Père. Éphésiens, lorsqu'on lit Éphésiens 1:5, l'élément qui ressort, c'est qu'on nous dit que nous sommes des enfants d'adoption. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains 12:5, on dit, nous sommes membres les uns des autres. Dans 1 Corinthiens, on va lire quand même 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Amen. Donc, ici, on voit que quand on regarde ces passages-là, c'est-à-dire, nous sommes aussi la maison de Dieu lorsqu'on ajoute Hébreux 3:6 ou Éphésiens 2. Donc, on voit que l'Église, au fait, c'est une famille spirituelle. Donc, nous sommes une famille. C'est-à-dire, au même titre qu'on a nos familles individuelles nucléaires, c'est-à-dire l'Église constitue la famille spirituelle dans laquelle nous sommes. Et dans cette famille-là, nous sommes membres les uns les autres. Et cela est décrit ici par la métaphore du corps que Paul prend ici pour nous expliquer effectivement l'interrelation ou la communion que les uns et les autres devraient avoir. Donc, il nous donne l'exemple de l'œil, de l'oreille ou des bras, des membres et tout. Donc, imaginons un temps soit peu qu'on dissèque toutes nos parties de corps et puis on les dispose. Je ne sais pas si ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne pourra pas fonctionner. C'est-à-dire, l'œil ne peut pas être seul là-bas et puis peut-être seul il va clignoter, mais il ne peut rien faire. Il faut que ce soit les membres qui l'envoient quelque part. Il faut que ce soit la bouche qui parle. Il faut que ce soit l'oreille qui entende et tout. Donc, ça montre l'importance, effectivement, de l'unité au niveau de la famille. Et quelle que soit son organisation ou sa structure, le but de l'Église locale est de glorifier Dieu. Ici, j'ai mis l'Église locale pour faire la différence avec l'Église universelle. L'Église locale, ce serait donc l'ensemble des chrétiens qui se réunissent à un endroit, dans une communauté pour adorer. Comme nous ici à l'Église de Rosemont, nous sommes une Église locale qui est différente de l'Église universelle qui sera l'ensemble de tous les chrétiens partout dans le monde entier. Mais ici, c'est pour ça que j'ai mis Église locale, juste pour qu'on se comprenne. Donc quand je vais parler d'Église ici, c'est plus de l'Église locale que je serai en train de parler. C'est bon? Nous glorifions Dieu en le servant avec les dons qu'il accorde à l'Église locale par son Esprit. Donc l'objectif de l'Église, le but du moins, c'est de glorifier Dieu. Or, comment peut-on glorifier Dieu ensemble, en tant que famille, en tant que membre, mais c'est en le servant avec les dons et slash avec les talents qu'il nous accorde. Et dans 1 Corinthiens 12, 27, comme on l'a lui dit, vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, la tête, c'est Christ lui-même. Donc, quelques-uns sont les doigts, quelques-uns sont les orteils, quelques-uns sont, je dirais, le cou et tout cela. Donc, nous sommes tous les membres. Et j'ai dit, soyons sur la même longueur d'onde. L'Église locale, donc, ensemble des chrétiens fréquentant une même communauté, l'ensemble du corps de Christ, comme on l'a lu tantôt, qui appartient à une même communauté. C'est l'ensemble des membres de la communauté. Le service, c'est l'accomplissement d'un travail ou d'une tâche à l'endroit d'une autre personne ou d'un autre groupe. C'est aussi le fait de manifester de l'amour à son prochain. C'est servir Dieu en mettant ses talents ou ses dons au service, donc, de la communauté. Donc, selon ce que Dieu nous a donné, on sert, c'est-à-dire on le sert pas pour nous-mêmes, mais on sert pour la communauté, pour les uns et les autres. Et si on repart sur l'image que Paul donne au travers du corps, c'est-à-dire c'est les yeux qui voient, mais c'est les pieds qui nous amènent vers la porte. Donc, pour montrer effectivement comment c'est important qu'on soit unis en tant que famille d'Église.
Les membres se servent un l'autre.
Tout à fait.
Au service de l'un et de l'autre.
Ils sont au service, effectivement, de l'un et de l'autre. Et le service dans l'Église, c'est accomplir une tâche au sein de la communauté pour glorifier Dieu. Donc, c'est manifester de l'amour aux frères et sœurs dans l'Église. C'est prendre soin les uns des autres. Actes 6, 1 à 4. Baby, tu peux le chercher. Actes 6, 1 à 4. Donc, quand on parle du service, donc, dans l'Église, on ne voit pas seulement la tâche qu'on est en train d'accomplir. Mais quand on accomplit la tâche, on voit l'amour qu'on est en train de manifester à l'endroit de l'autre. Actes chapitre 6, versets 1 à 4. Amen. Donc on voit ici, quand on parle de service dans l'Église, c'est ça. Mais ils servaient les autres. Ils étaient donc au service des autres et ils accomplissaient cette tâche-là. Et j'ai trouvé que c'était intéressant qu'on puisse parler aussi du don spirituel, parce que quand on parle de service, on parle, mais c'est avec des dons, des talents, des capacités que Dieu met à la disposition de chacun. Et ici, la qualification, donc le don spirituel, c'est la qualification donnée par l'Esprit de Dieu à chaque chrétien pour le service au sein de l'Église locale, donc au sein de la communauté, comme on l'a lu aussi dans 1 Corinthiens 12, 7. Alors, voici le plan qu'on va suivre pour développer l'ensemble de tests, c'est-à-dire Jésus, notre modèle dans le service. Le service, un appel pour tous, donc expression naturelle de l'amour familial. C'est-à-dire, dans nos familles, on s'aime les uns les autres, on aime les enfants, les enfants aiment les parents et tout cela. Mais au sein de l'Église aussi, c'est pareil. Nous sommes une famille. Donc, on doit pouvoir manifester cet amour-là les uns les autres, sans tenir compte des caractéristiques des uns et des autres. Mais on doit pouvoir s'aimer, sans tenir compte de la couleur, sans tenir compte du comportement, sans tenir compte de la façon d'être des uns et des autres, on doit pouvoir s'aimer. Et puis, le troisième point, c'est comment servir dans l'Église. On parle de servir dans l'Église, servir, mais comment on sert dans l'Église? Donc, Jésus, notre modèle, Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Et quelqu'un pourrait nous prendre Luc 22, 24 à 27. Luc 22, 24 à 27. Amen. Lorsqu'on ajoute Philippiens 2, 5 à 7 dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc ici, lorsqu'on regarde ça, on nous parle donc de sa position d'égal à Dieu. Il prend une forme de serviteur. Donc, il vient pour servir. C'est-à-dire, en tant que roi, en tant que Dieu, il vient pour servir. Deuxièmement, il est venu pour servir et donner sa vie. Et troisièmement, en le faisant, au fait, il manifeste de l'amour en le faisant. Mais ici, on nous dit de sa position d'égal à Dieu. Philippiens nous le positionne déjà dans l'égalité. Et c'est de cette position-là, donc, qu'il descend. Pour prendre la forme des hommes, voilà, de serviteur. Donc, il vient en tant que serviteur. Mais avant de venir en tant que serviteur, on dit qu'il n'a point regardé à sa position d'égal à Dieu. Donc, déjà, l'égalité est posée ici. OK? Jean 13, 14 à 15 dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc ici, dans l'intervention de Jésus, il montre l'exemple. C'est en lavant les pieds de ses disciples, c'est un exemple qu'il nous donne. C'est-à-dire, lui qui est le maître, il lave le pied des serviteurs. Il lave le pied de ses disciples, lui qui est le maître. Et c'est lui le parfait modèle. Le Seigneur est maître qui prend la place du serviteur et de l'esclave. Il prend la place du plus petit. Son service est humble. Donc ici, en prenant la place de l'esclave, parce qu'autrefois dans la culture, je dirais juive, c'est-à-dire laver, ceux qui lavaient les pieds, c'était ceux qui étaient inférieurs. C'était les esclaves qui lavaient les pieds. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, quand le Seigneur dit « Venez », il dit « Non, non, moi tu ne touches pas mes pieds. » C'est pas possible. Parce qu'il voit le maître qui veut laver les pieds de lui, qui se prend pour inférieur au maître, il dit « Non, non, c'est pas possible. » Le Seigneur lui dit « Mais si je lave pas tes pieds, c'est dangereux. » Il dit « Mais tu n'auras pas ta part avec moi. » Mais en même temps, il lui dit « Bon, tu vas pas t'arrêter aux pieds, lave-moi tout le corps. » Donc, vous voyez, donc on voit le maître qui descend aux pieds de serviteur. Et c'est ce modèle-là qui nous montre, hein, qui nous donne. Et dans le passage qu'on a lu tantôt, dans Luc 22, on nous dit que les chefs, je dirais, de la terre dominent et tyrannisent. Mais le Seigneur lui nous dit non, non, le chef au contraire, dans moi, ma famille là, le chef au contraire, c'est celui qui est le serviteur. Donc c'est un modèle fort qu'il nous donne. Plus grand, votre serviteur.
Il y a une gêne. Hein? Oui. C'est pas quelque chose de courant, quelqu'un qui nous lave les pieds, mais si quelqu'un nous lavait les pieds actuellement, là, il y aurait une gêne qu'on aurait de voir une personne agenouillée devant nous pour nous laver les pieds. Là. Il y aurait un malaise.
Tout à fait. Hein? C'est ça. Donc, c'est ce malaise-là que Pierre a manifesté aussi. Non seulement cela, mais il voyait le maître. Il dit, mais au contraire, c'est nous qui devons le faire. Ça nous montre aussi, le rapport entre Jean-Baptiste et Jésus, quand il devait être baptisé. Il dit, non, c'est pas à moi de te baptiser. Je lui dis, fais-le, parce que pour qu'on accomplisse les Écritures. Vous comprenez un peu? Donc, ici, on voit le maître qui va se soumettre. On voit son humilité. Il va pas regarder à toute sa grandeur, à ses capacités, à ses forces. Donc, c'est l'exemple qu'il nous donne. Donc, ici, pour conclure avec ce point-là, Jésus qui est notre modèle, c'est Jésus présente le service comme un signe distinctif du croyant. Donc, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, le service fait partie de notre marque. En tant que chrétien, on ne peut pas dire on est chrétien et puis on ne sert pas. On ne peut pas dire on a accepté Christ et puis on ne veut pas servir. Donc, il nous montre effectivement qu'on doit pouvoir servir les autres. C'est manifester notre amour à leur endroit. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus a enseigné, il a beaucoup enseigné. Il a guéri, il a fait beaucoup de miracles, il a nourri, il a organisé aussi et bien de choses. Mais dans le but de glorifier son Père, il y avait un objectif dans tout ce qu'il accomplissait, c'était la gloire revienne au Seigneur. La gloire revienne à son Père. Donc le service de Jésus est un service humble, comme nous l'avions mentionné, et puis il est empreint d'amour. Donc Jésus nous invite à l'imiter, à suivre son exemple. Jean 13, le verset 15. Donc le deuxième point, il est assez intéressant encore pour nous-mêmes, c'est-à-dire le service est un appel pour tous, expression naturelle de l'amour familial. Donc, on a donné l'exemple de l'amour familial. Dans nos différentes maisons, dans nos différentes familles, on veut qu'il y ait de l'amour. On veut qu'il y ait une belle ambiance familiale. Qu'on soit contents les uns les autres, qu'on soit heureux d'être ensemble. Mais dans notre famille d'église aussi, c'est important pour cela. Il faut qu'on soit heureux quand on est ensemble. Il faut qu'il y ait une belle ambiance familiale lorsqu'on se retrouve ensemble. Et il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et dans 1 Corinthiens 12 qu'on a lu, c'est que le don est une grâce de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous l'accorde. C'est une grâce de Dieu. Et tout croyant a reçu un don pour servir. Et quand on repart encore dans 1 Corinthiens 12, dans ce qu'on a lu avec l'image du corps, on nous dit tout croyant a reçu un don pour servir. C'est-à-dire, le bras, il a, si c'est le membre, il a son rôle. Les yeux ont leur rôle, les pieds ont leur rôle. Donc, chacun a son rôle. Mais le tous forme un édifice. Par la suite du texte, on dit, nous parle d'un édifice qui est bien coordonné. Chacun joue son rôle pour que l'édifice soit bien coordonné. Lorsqu'on lit le verset 11 ici, il dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Il distribue à chacun en particulier comme il veut. » Donc, tout croyant a reçu un don pour servir. Et notre don est pour servir les autres. C'est-à-dire, on n'a pas une capacité, que ce soit un talent, que ce soit un don spirituel. On ne l'a pas dans la famille d'église que nous sommes, pour nous servir nous-mêmes. Sinon, on n'aurait pas besoin de se regrouper en famille d'église. On n'a pas une capacité pour nous servir nous-mêmes. On n'a pas un talent pour nous servir nous-mêmes dans l'église. Mais on l'a pour servir les autres, pour le mettre au service des autres. Galates 5, verset 13, quelqu'un pourrait le lire, celui qui trouve. Galates 5, verset 13. Et puis, quelqu'un d'autre pourrait chercher Éphésiens 4, du verset 11 à 12. Amen. Rendez-vous par la charité, on dirait par l'amour, serviteur les uns, les autres. Donc, toute capacité, tout don que Dieu nous donne, c'est pour qu'on puisse se servir les uns les autres. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Amen. On dit pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est qui? C'est l'Église. L'Église, c'est qui? C'est nous, tous ensemble réunis. Donc, Christ est la tête, le corps de Christ. C'est-à-dire, le bras est là, quelqu'un parmi nous ce matin, peut-être le bras, l'autre est le ventre, l'autre est... Donc, il dit pour le perfectionnement et l'édification. Le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Donc, c'est pour cela qu'on a les dons et les dons que Dieu nous donne, les capacités qu'il met à notre disposition. Éphésiens 4, c'est ça. Donc, pour l'utilité donc commune. C'est de servir...
ceux qui ont reçu le don d'être...
Bon, explique-nous.
Moi, je pense que j'ai rien à expliquer. Je pense que tout le monde comprend ce que...
Donc, le frère dit, le plus difficile, c'est de servir ceux qui ont reçu le don d'être servis. Donc, ceux qui sont orgueilleux, ceux qui pensent qu'on doit les servir. Je pense que c'est oui, dans ce sens, hein. Parfait. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Extrêmement difficile pour quelqu'un qui veut pas servir, qui veut qu'on le serve. Voilà. Qui veut qu'on le serve. Voilà. Or, en tant que serviteur, on doit se servir les uns les autres. Ne pas attendre qu'on se serve, mais pendant qu'on te sert, toi aussi tu es en train de servir ailleurs. Je donnais un exemple. Ce matin, on aura des frères, des sœurs qui vont nous servir par la louange, qui vont nous servir. Ils ont le don, ils ont la capacité, mais parmi nous, peut-être, on n'a aucune capacité musicale ou quoi que ce soit, mais ils sont en train de nous servir. Mais comment nous, on va les servir ailleurs? Mais c'est par le talent, le don que Dieu nous donnera, qu'on sera en train de servir aussi. Donc, vous voyez qu'ils seront là ce matin pour nous amener, pour nous entraîner dans la louange, dans le service de la louange. Mais pendant qu'ils le font, un autre, je prends des frères qui sont en train de nous servir en ce moment là-bas au niveau de la technique. Mais ils sont en train de nous servir. Amen. Donc, chacun, on se sert les uns les autres. Chacun dans la capacité, le don que Dieu lui a donné. Amen. Oui. Et puis, au début, on parlait un peu, il y a la sœur qui a dit, au niveau de l'Église, il y a beaucoup de ministères. C'est-à-dire, le service, il est large. Il y a de la place pour tout le monde. Et moi, j'aime dire, on ne peut pas dire qu'on a appelé et puis on n'a pas de service. C'est-à-dire, dès que Dieu appelle quelqu'un, il y a une capacité qui est reliée à son appel. Il y a un service qui est relié à son appel. C'est-à-dire, on mettra quelqu'un dans, je vais dire, l'enseignement aux enfants. Moi, on ne peut pas me mettre là-bas parce que je vais être trop flashé avec les enfants. Tu comprenais? Donc, mais mettez quelqu'un d'autre là-bas, excellent. Va le faire. Donc, chacun a sa capacité. Mettez quelqu'un au secrétariat, ça marche pas. Mais mettez la personne qui a la capacité, ça va marcher. Donc, on est appelé à servir chacun dans son domaine. Donc, on peut pas dire non, il n'y a pas de place, je sais pas, je peux pas servir parce que j'ai pas de place ou bien j'ai pas de. Oui, tantis ça. Amen. C'est le service. Ça, c'est la manifestation, comme on l'a dit, le service, c'est la manifestation de notre amour les uns envers les autres. Donc, on est en train de servir. Dans le service de Jésus, on a dit, il a nourri, hein. Il a dit, il a nourri. Il ne s'est pas seulement limité à l'enseignement, mais en plus de l'enseignement, il a nourri. Il a prié pour les gens. Donc, c'est ça le service. Amen. Et puis, je me souviens, on a une maman ici à l'église qui, il y a quelques années, puis un jour, elle m'a approché et puis elle me dit, ah, mon frère, je prie pour vous. Je prie pour vous. C'est-à-dire, tu ne peux pas des fois imaginer des personnes qui se mettent à prier les uns pour les autres, qui prient pour vous. Vous comprenez? Mais les personnes sont là dans un service en train de veiller pour vous, en train de prier pour vous. Des fois, on ne fait même pas attention, on ne s'en occupe pas, tu ne sais même pas, mais c'est des services qui sont discrets. Dieu les voit, même si les hommes ne les voient pas. Amen. OK. Mais dans l'Église, des fois, on a besoin de services aussi qui seront disponibles. Hein? Je vais donner l'exemple du nouveau temple dans lequel les projets sont en train d'être faits. Hein? Certainement qu'on aura besoin de personnes pour aider, pour servir là-bas et tout cela. Donc, tout cela rentre dans le cadre du service. Hein? Comme la sœur l'a dit, aller s'asseoir près d'une sœur, apporter de l'encouragement, près d'un frère, apporter de l'encouragement, prier, soutenir. Tout ça, ça rentre dans le service. Comme on a dit, le service dans la maison de Dieu, c'est aussi développer de l'amour les uns envers les autres. Donc le service n'est pas uniquement réservé aux pasteurs, aux responsables, aux anciens, mais à tous les chrétiens. Donc ce matin, on doit pouvoir se dire au sortir d'ici, j'ai un service aussi à apporter, j'ai un rôle à jouer dans ma famille d'église. Et Paul a été tellement clair quand il décrivait, il dit, mais les yeux disent, mais moi je ne suis pas l'oreille, ça ne m'intéresse pas. Ou l'oreille dit, bon moi je ne suis pas les yeux, je ne suis pas la bouche, comprenez? Donc c'est-à-dire on est interreliés. Et quand le service n'est pas uniquement réservé aux pasteurs, aux responsables, aux anciens, mais à tous les chrétiens, c'est pour insister, pour dire que chaque chrétien, qui qu'on soit, on a notre place dans l'Église. On a notre rôle dans l'Église, on a un service à apporter dans l'Église. Et chacun de nous a un appel de service sur sa vie, comme on l'a dit tantôt. Bon, les versets, on a lu le 12, on a lu Éphésiens 4. On va lire Romains 12, versets 4 à 6. Et puis ça, c'est une question pour tout le monde. Là où j'ai mis appel, on peut le remplacer par service, on peut le remplacer par don. Quel est mon appel? Quel est mon service? Ou quel est mon don? Quel est mon talent? C'est bon? Donc que chacun réfléchisse à cela et puis va répondre. Donc Romains 12, versets 4 à 6. Celui qui le trouve peut le lire, s'il vous plaît. Amen. Donc on voit ici le point qui m'intéresse, sur lequel je voulais qu'on mette l'emphase, c'est que puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, donc nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. C'est-à-dire, je ne vais pas désirer le don de mon frère. Je ne vais pas jalouser le don de mon frère. C'est son don, Dieu lui a donné, il n'a qu'à faire son affaire avec. Mais Dieu t'a donné ton don, tu fais ton affaire aussi avec. Donc, Dieu a donné à chacun des dons différents. Donc, on doit pouvoir avoir cela aussi à l'esprit dans le service qu'on va faire. Amen. Donc ici, quel est ton don? Quel est ton appel? Quel est ton service? Donc, chacun individuellement peut répondre à cette question-là. C'est-à-dire, on peut se demander quel est là où Dieu m'appelle à servir. Où est-ce que Dieu voudrait que je puisse servir? Donc, ça nous donne donc de passer au troisième point, comment servir? Donc, pour servir, pour répondre à la question, mais où est-ce que Dieu m'appelle à servir? Où Dieu voudrait que je puisse servir? D'abord, c'est important de connaître son appel, de connaître son don. C'est-à-dire, pour certains, c'est pratique. Dès qu'ils sont convertis, ils savent où ils vont servir, où Dieu les appelle à servir. Mais pour certains, ça va être difficile. On ne sait pas trop. Je veux servir, mais je ne sais pas où servir. C'est vague. Alors, les éléments qui vont nous aider effectivement à déterminer, à nous aider à savoir où est-ce qu'on pourrait servir, le premier élément, c'est la prière. Donc, demander à Dieu de nous montrer où est-ce qu'on pourrait servir. Seigneur, où est-ce que je peux servir? Certains viennent avec des talents naturels. Avec des talents naturels, donc, eux, c'est peut-être facile de trouver un créneau à partir du talent naturel qu'ils ont. Mais des fois même, en plus du talent naturel qu'ils ont, Dieu veut même pas qu'ils servent là où ils ont leur talent. Parce que Dieu a mis un autre dépôt en eux, là où ils vont servir plus efficacement. Donc, la prière est un élément important. Deuxièmement, il y a la pratique. J'ai mis en servant, on découvre nos dons. Des fois, on ne sait pas où servir. Mais je vais dire, bon, tu ne sais pas où servir, il faut tâtonner. C'est-à-dire, va, sers là. Tu vas, sers dans ce domaine où tu sens que peut-être tu as de l'intérêt. Va où tu as de l'intérêt, va servir. Et donc, c'est en servant qu'on découvrira effectivement que je me sens bien là et accompagné de la prière, Dieu nous accompagne là-dessus. Et le troisième élément, la vie des autres. La vie des autres aussi compte, c'est important. Parce que des fois, tu peux être dans un service sans même savoir que tu as une capacité pour cela. Mais peut-être quelqu'un à côté va te dire, « Ah, mon frère ou ma sœur, je te vois servir dans ce domaine-là. » Donc, quand on ne sait pas où servir, on ne sait pas quel est notre appel, en ce moment-là, voici des éléments qui peuvent nous aider, peut-être avec d'autres éléments que vous pourriez ajouter, qui peuvent nous aider effectivement à découvrir notre appel, notre don, notre talent. Et connaître les différents ministères de l'Église aide à faire un choix de service selon le don que Dieu nous a, selon le don que nous avons. Donc, effectivement, en voyant les différents ministères de l'Église, en ce moment-là, on peut s'orienter. Ça nous aide à nous orienter. Donc, il est important, par exemple, de connaître les différents ministères de l'Église. Et puis ici au sein de l'Église, il y a la fête des ministères qui est un bon créneau pour nous aider à regarder où est-ce qu'on peut s'inscrire pour déjà apprendre à servir et tout cela. Donc c'est un peu, je dirais pas la recette, mais pour moi c'est des éléments qui peuvent nous aider à savoir où est-ce qu'on peut servir. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à ajouter. Parfait. Les dons, ça se développe. Ça dit, on a le don, si on ne l'exerce pas, il ne va pas se développer. Mais les dons se développent. Les talents aussi se perfectionnent. OK? Donc, les dons se développent. Donc, on va dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et les sentiments qui doivent nous animer dans le service. Colossiens 3, 23 à 24, on va passer au travers des passages là. Donc, pendant que quelqu'un prend Colossiens 3, 23, 24, l'autre prend Philippiens 2 aussi. Donc, on y va avec Colossiens. Colossiens 3, 23 à 24. Amen. Donc, ici, dans le service, quand on sert, on ne doit pas se dire, mais tiens, je suis en train de servir mon frère, je suis en train de servir ma sœur. C'est-à-dire, c'est le service, on se sert les uns les autres. Mais en se servant les uns les autres, on avait dit au début que le but de l'église locale, c'est de glorifier Dieu. Donc, notre service, en réalité, quand on le fait, c'est dans l'optique de pouvoir glorifier Dieu. C'est bon? Donc, c'est Dieu que nous servons. Donc, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on fait ce matin, c'est Dieu que nous sommes en train de servir. Philippiens 2, 3 à 4. Amen.
Ouch!
Donc, dans notre service, on doit considérer les intérêts des autres. C'est-à-dire, on ne va pas se servir. On va pas chercher qu'on nous serve, mais on va chercher les intérêts des autres. Matthieu 23, 11 et Galates 5, 13. Amen. Et puis Galates 5, 13. Amen. Donc, on sert avec amour et on sert avec humilité. C'est bon? Voilà, donc c'est comme cette anecdote où on veut, dans une communauté, savoir qui est l'homme le plus humble de la communauté. Puis, on décide que, ah, mais l'homme le plus humble, c'est celui qui venait tous les matins balayer l'église. Très tôt, il balaye. Et puis, les autres arrivent, et puis on s'assoit et tout ça là. Donc, il a la médaille là. Maintenant, on passe pour le saluer. On dit, ah, l'homme le plus humble. Donc, quand tu le salues, dis, ah, je suis le plus humble, puisse-moi sa médaille. Non, c'est moi le plus humble. Donc, pour montrer que l'humilité est tellement subtile. Ou du moins, l'orgueil est aussi subtil que cet homme-là, pendant qu'on salue son humilité, mais il démontre effectivement tout son orgueil. Le Seigneur nous interpelle à cela, l'humilité. Donc, on sert avec amour et avec humilité. Et puis, on prie pour que Dieu nous donne la force d'être humble. Et 1 Corinthiens 14, 18 à 19, parfait. Donc, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc, comme on l'a dit tantôt, nous servons pour l'édification des autres, pour l'édification de l'église. Et on a dit pour le perfectionnement des saints. Et Luc 17, verset 10. Luc 17, verset 10. Amen. Donc, il dit, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est-à-dire, quand on aura fini un bon programme d'évangélisation, où Dieu aura attiré les âmes à lui, quand on va s'asseoir, on va dire, ouais, donc nous sommes des serviteurs inutiles. Comprenez? Donc, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Oui, amen. Donc, on ne va pas tomber dans le découragement parce qu'on ne va pas rechercher. On ne va pas s'attendre aux félicitations des hommes, à l'encouragement des hommes. C'est vrai que de temps en temps, quand on tape à l'épaule, ça fait du bien. Mais si on le fait pas, on avance. Voilà, c'est ce que ça veut dire, on avance. C'est Dieu qu'on sait, c'est lui le boss. Et puis on gèle. Vous comprenez? Allez-y. Donc, à chaque moment de notre vie. Ça, c'est important. C'est un point important parce que la vie chrétienne, c'est pas seulement quand on se retrouve à l'église dimanche. Et ça, on a un témoignage partout. Notre vie, on est chrétien là, c'est partout. C'est-à-dire, le mot chrétien, quand on lit la Bible, c'est des gens dehors qui ont vu ceux-là. Mais ceux-là, c'est des chrétiens, des petits Christ, parce que ça transparaissait dans leur habitude, dans leur comportement, tout ce qu'ils faisaient. On dit non, Ceux-là, ils font partie de la secte de Christ, là, c'est des chrétiens.
C'est là qu'on va surtout rencontrer ceux qui ont le don d'être servis. C'est là qu'on les rencontre le plus souvent.
C'est ça. C'est ça. Donc c'est important un peu, comme on dit, on se met à l'idée que c'est Dieu qu'on sert. Oui, vas-y. Amen. Donc c'est ça. Donc c'est le mot intéressant, c'est-à-dire on est tous redevables à Dieu. Voilà. Donc c'est important dans notre service, comme on l'a dit. C'est-à-dire même si les autres aiment se faire servir, c'est pas grave. C'est-à-dire eux, c'est à Dieu qu'ils vont rendre compte. Nous aussi, c'est à Dieu qu'ils vont rendre compte. Et chacun rendra à Dieu compte. Donc pour le service qu'on fait, c'est, on doit pouvoir avoir l'esprit en effet que c'est Dieu qu'on sert. C'est Dieu qu'on sert et non les hommes qui le font. C'est ça. Parce que il nous assistera et il prendra soin de nous. Il va nous rémunérer lui-même. Il va nous diriger nous-mêmes. C'est-à-dire, on s'attend, on devrait rien attendre au fait dans notre service des autres. Mais c'est plutôt de Dieu qu'on doit s'attendre. OK? Donc, c'est Dieu que nous servons et non les autres. Donc, le service exprime notre amour pour Dieu. Voilà. C'est-à-dire, c'est quand on sert au fait, nous sommes en train de manifester notre amour pour Dieu. Et on dit, Dieu n'est pas injuste, comme le frère l'a dit tantôt. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Donc, dans le service qu'on a accompli, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à le faire. C'est l'amour de Dieu qui, ce matin, permet qu'on puisse se retrouver tous ensemble ici. Vous venez, on dit, non, on va adorer notre Dieu parce qu'on l'aime, parce qu'il nous aime. On va l'adorer. Donc, c'est ça. Et Dieu nous dit que il n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour qu'on montre pour son nom. Et le service exprime aussi notre amour pour les frères, comme on l'a dit. Et 1 Jean 3,18, il dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, le service qu'on fait aussi à l'endroit des autres, ça manifeste l'amour qu'on a pour eux. Donc, on doit pouvoir regarder cela. J'avoue que s'il y avait 2 ou 3 ans, je préparais le même message, peut-être je l'aurais abordé dans un autre sens. Effectivement, je l'ai fait, je l'ai abordé dans un autre sens. Et cette fois-ci, c'était important de l'aborder dans le sens de l'amour. Je pense qu'on finit... Donc, en conclusion, c'est-à-dire, nous formons une seule et même famille en Christ. La place de chacun est précieuse. Est-ce que ce matin, on pense que notre place est précieuse dans notre famille en Christ? Est-ce que chacun de nous, quelqu'un, pense qu'il a sa place dans la famille de l'Église que nous formons? Donc, chacun a sa place dans la famille d'Église que nous formons. Et on va y aller avec nos caractères. On va y aller avec nos comportements. C'est comme à la maison, chaque enfant a son caractère. Mais cela ne vient pas disloquer la famille. Mais cela, on va utiliser le caractère, la personnalité de chacun pour que la famille puisse être unie. Et pareil aussi dans notre famille d'église. Chacun a sa place et chacun est précieux pour servir. Aucun membre n'est de trop. Aucun don n'est insignifiant. Aucune présence n'est sans valeur. Donc, on est important dans nos relations les uns envers les autres. Peut-être on peut se parler moins. Peut-être on peut avoir moins d'affinités. Mais on doit pouvoir comprendre qu'on est quand même important les uns les autres. Mettons nos dons au service les uns des autres pour notre édification mutuelle. Et engageons-nous ensemble à porter la parole vers ceux qui cherchent Dieu, qui cherchent encore Dieu. Donc, c'est dans notre différence de caractère, de comportement, qu'on se met ensemble pour porter la parole. Des fois, on pourra partir à l'évangélisation. Des fois, vous allez à l'évangélisation 2 par 2. Mais il y a parmi entre vous, il y a quelqu'un qui est plus à l'aise à parler plus facilement, à aborder plus facilement. Mais la deuxième personne à côté, peut-être qu'elle a de la difficulté à aborder des gens, mais c'est elle qui va te donner les références bibliques que tu cherches dans ta tête, tu ne trouves pas. C'est lui qui va te dire, mais voilà, voilà, et puis... On apporte.
Un peu comme Paul et Barnabas.
Paul et Barnabas, c'est ça. Paul et Barnabas, c'est ça. Et Barnabas derrière qui allume le feu pour Paul, et puis Paul qui déclare, qui avance. Donc on voit comment chacun est utile. Un sème, un récolte, mais c'est Dieu qui arrose pour faire pousser l'ensemble, n'est-ce pas? Oui, vas-y. Oui, Ronald. Donc c'est ça. Donc le service, comme on l'a dit, Enfin, ne pas oublier effectivement le service dans notre famille. Je veux dire que c'est de là que ça découle. C'est de là que ça découle et puis ça va réjaillir partout sur notre famille d'église. Donc c'est important qu'on puisse effectivement servir à ce niveau-là. Donc mettons nos dons au service les uns les autres pour notre édification mutuelle et engageons-nous ensemble à porter la parole vers ceux qui cherchent encore Dieu. Et puis ayons les sentiments donc qui étaient en Christ. Comme on l'a dit plus haut, c'est lui notre modèle parfait et c'est lui qu'on va suivre. Amen. Donc on va finir avec Philippiens 2, 3 à 11. Philippiens 2, 3 à 11. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi et bon culte.